RFI Radio France, International, 8h à Paris, 1h de moins en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Gaëtan Plenet, alors que 8 nouveaux otages doivent quitter Gaza aujourd'hui, Gaëtan, les habitants poursuivent, eux, leur retour dans le nord de l'enclave.
Ils rentrent en sachant qu'ils vont retrouver des paysages dévastés, leur maison détruite par 15 mois de guerre. Dans ce journal également, Ahmed Al-Shara nommé président intérimaire en Syrie. Une collision entre un avion de ligne et un hélicoptère à Washington. Les deux appareils sont tombés dans le fleuve Potomac. Pas encore de bilan. On va évidemment faire un point sur la situation à Goma ce matin, alors que la présence des combattants du M23 est désormais visible dans la ville. À suivre également notre dossier du jour, consacré au rapport de la commission Ramondi sur le rôle de la France dans la répression contre les indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Et puis on fera un point sur les équipes qualifiées pour la suite de la Ligue des Champions.
Jeudi 30 janvier 2025, fin de l'ultimatum pour l'UNRWA.
À l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, sommée par Israël de cesser ses activités sur le territoire israélien, ce qui englobe Jérusalem-Est, le secteur de la ville occupée et annexée par l'État hébreu. L'agence fournit pourtant à quelques 6 millions de personnes des services publics en matière de santé mais aussi d'éducation au Liban, en Syrie, en Cisjordanie ou encore dans la bande de Gaza où elle est, cette aide cruellement vitale pour les habitants après 15 mois de guerre dévastatrice. Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 19 janvier dernier entre Israël et le Hamas. Les troupes israéliennes se sont partiellement retirées en début de semaine des zones les plus peuplées de l'enclave. Alors les Gazaouis poursuivent par dizaines de milliers leur retour dans le nord de la bande de Gaza. Un retour qui n'est pas évident pour tout le monde. Correspondance à Jérusalem de Sami Boukhalifa.
Pour les Palestiniens, ce retour dans le nord de la bande de Gaza est historique. Depuis la création de l'État hébreu en 1948, les Palestiniens ont été chassés à plusieurs reprises de leurs terres, leurs maisons confisquées. Mais Israël leur a toujours refusé le droit au retour. Ce retour est certes inédit, on est autorisé à rentrer chez nous, mais on n'a plus de chez nous, se désole Youssef.
Mais quand tu rentres et tu trouves rien, rien du tout, tu vas pas trouver tes amis, tu vas pas trouver tes souvenirs, tu vas pas trouver ton quartier, rien. Ça rend fou. 90% de Gaza est complètement rasé, tu vas y aller. C'est une souffrance.
Alors, contrairement aux centaines de milliers de déplacés comme lui qui ont pris la route du retour pour remonter vers Gazaville et le nord de l'enclave, Youssef retarde son départ synonyme de supplice. Il s'inquiète aussi pour l'avenir de ses enfants dans un territoire ravagé par la guerre.
Je vais continuer, travailler, je vais pas quitter Gaza, mais faire sortir mes enfants, c'est la prioritaire. Ça va prendre du temps pour reconstruire le minimum à Gaza. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants? Ils ont le droit de vivre, quoi.
Youssef a deux filles et un garçon. L'aîné avait obtenu une bourse d'études aux États-Unis juste avant la guerre, mais n'a pas pu sortir de Gaza. Son fils a eu son bac, mais il n'y a plus d'université à Gaza. Sa petite dernière a 10 ans. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Et 8 nouveaux otages, 3 Israéliens et 5 Thaïlandais doivent quitter Gaza aujourd'hui en échange d'une centaine de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Troisième échange du genre depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il doit y en avoir d'autres dans les prochains jours, même si le Hamas prévient. Ça pourrait être compromis. Le mouvement islamiste accuse Israël de retarder l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, ce que dément l'État hébreu.
En Syrie, près de 2 mois après la chute de Bachar al-Assad, un nouveau président.
Un président intérimaire nommé hier soir par les nouvelles autorités. Une sorte de confirmation puisque c'est celui qui, de fait, était au pouvoir depuis plusieurs semaines qui a été désigné, Ahmed Al-Shara, chargé de la présidence, nous dit-on, durant la période de transition sans qu'aucune durée ne soit précisée. Mais le vent du changement continue de souffler sur la Syrie, correspondance depuis Beyrouth de Paul Ralifé.
Les nouveaux maîtres de Damas ont pratiquement fait table rase du passé ce mercredi. Ils ont dissous l'ancien parlement, l'armée du régime de Bachar el-Assad et ses services de sécurité, le parti Baas qui a gouverné la Syrie pendant 60 ans et toutes les formations qui se sont alliées à lui au sein du Front National Progressiste. Les groupes armés qui ont combattu le régime, ainsi que les structures civiles et militaires de la révolution syrienne n'ont pas échappé au coup près de la dissolution. Avec le gel de la Constitution, tous les pouvoirs sont désormais concentrés entre les mains d'Ahmad al-Shara, nommé président de la transition, qui assumera les fonctions de chef de l'État et représentera la Syrie dans les forums internationaux. Avec ses pouvoirs illimités, le nouveau maître de Damas pourra reconstruire comme il le souhaite la Syrie de demain. Sa première mission sera de former un conseil législatif intérimaire, une sorte de parlement non élu qui aura pour tâche de voter une nouvelle constitution et des lois. Les nouvelles autorités ont promis, je cite, la reconstruction de l'armée syrienne et la formation d'un nouvel appareil sécuritaire qui préservera la sûreté des citoyens. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Des opérations de secours en cours à Washington alors qu'un avion de ligne et un hélicoptère militaire qui effectuait un vol d'entraînement sont entrés en collision avant de tomber dans le fleuve Potomac. 64 personnes étaient à bord de l'avion. On ignore pour l'heure le nombre d'éventuelles victimes et les raisons aussi de cet accident qui aurait dû être évité. C'est ce qu'affirme le président américain Donald Trump.
La communauté des États d'Afrique de l'Est réunie en sommet extraordinaire hier, une réunion virtuelle pour parler de la situation dans l'Est de la RDC.
Et les chefs d'État de la région ont appelé le gouvernement congolais a parlé, je cite, avec tous les acteurs, dont le M23, alors que le groupe rebelle soutenu par l'armée rwandaise est désormais présent dans la quasi-totalité du centre et de la périphérie de Goma. Le président rwandais, Paul Kagame, a participé à cette réunion. Pas son homologue congolais, Félix Tshisekedi, lui s'est rendu à Luanda pour une concertation avec les autorités angolaises sur les mesures à prendre dans le cadre du processus de Luanda. Et puis après ça, il s'est exprimé à la télévision. Bonjour Lisa Fabian.
Bonjour.
Du service Afrique de RFI. Lisa, discours très offensif pour Félix Tshisekedi.
Solennel et martial, Félix Tshisekedi se pose en chef de guerre et en dirigeant rassembleur, reconnaissant une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'Est. Le président promet que la RDC ne pliera pas, qu'elle ne reculera pas. Particulièrement sensible à la douleur des habitants de Goma, Félix Tshisekedi a annoncé des mesures pour protéger la population et garantir l'unité nationale. Il a notamment chargé le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu d'intensifier les opérations pour rétablir l'autorité de l'État. La riposte est en cours, assure-t-il, et elle sera vigoureuse et coordonnée. D'autre part, le président congolais a interpellé la communauté internationale, critiquée pour son silence et son inaction face au régime de Kigali. Une passivité qui frôle la complicité, selon Félix Tshisekedi, qui met en garde contre une escalade aux conséquences imprévisibles qui pourrait finalement embraser toute la région des Grands Lacs. Ce matin, en tout cas, la situation reste calme dans la ville de Goma, mais l'afflux des blessés est toujours très important et les structures médicales de la ville peinent à y faire face. Après les combats intenses du début de semaine, les habitants ont découvert de nombreux corps gisant dans les rues. La population essaye maintenant de s'organiser alors que vivres et médicaments manquent déjà cruellement dans la capitale provinciale du Nord Kivu.
Merci Lisa Fabian. Et pour suivre les dernières informations sur la situation dans l'Est de la RDC, rendez-vous sur notre live sur RFI.fr. Vous trouverez aussi sur notre site internet l'entretien de Radio France International et de France 24 avec Leslie Voltaire, le président du Conseil présidentiel de transition en Haïti. Il dit espérer l'organisation d'élections générales dans le pays autour de la mi-novembre, alors qu'Haïti est toujours ravagé par les violences de gangs armés. Hier, le président français Emmanuel Macron, qui a reçu Leslie Voltaire à Paris, a appelé les Nations Unies à envisager une opération de maintien de la paix dans le pays.
RFI 8h08 à Paris et Yaoundé, notre dossier du jour. On revient ce matin sur le rapport de la commission Ramondi,
chargée de se pencher sur le rôle de la France dans la répression contre les indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Il a été, ce rapport, remis à Emmanuel Macron la semaine dernière et mardi à son homologue camerounais, Paul Biya. Bonjour Florence Maurice.
Bonjour.
On s'y penche avec vous ce matin. Florence, les auteurs de ce rapport soulignent notamment le vide mémoriel qui entoure encore cette guerre, largement méconnue au sein de la société française.
Oui, pour la plupart des Français, leur pays a mené deux guerres de décolonisation, celle d'Indochine et celle d'Algérie. C'est le récit que l'on retrouve dans les manuels scolaires, un récit qui occulte donc la guerre de décolonisation menée au Cameroun contre les indépendantistes. Une guerre marquée par des violences extrêmes, comme l'a rappelé mardi l'historienne Karine Ramondi, la présidente de la commission.
Nous mettons en lumière l'existence de violences répressives et de massacres exercés par les autorités coloniales et l'armée française avant et après l'indépendance de 1960 sur les populations civiles et combattantes, et ce jusqu'en 1971. De décrire les violences multiples et illégales exercées par les troupes coloniales et camerounaises dans le cadre d'une guerre totale inspirée par la doctrine de la guerre révolutionnaire et qui ont inclus assassinats, emprisonnement arbitraire, déplacement massif de population et camps de regroupement.
Alors Florence, comment expliquer que cette guerre reste occultée ?
Cette guerre a été essentiellement menée par des troupes coloniales. Il n'y a pas eu d'appelés venus de métropoles comme en Algérie. Cela explique en partie son écho moindre au sein de la société française. Mais historiens et associations dénoncent aussi une volonté politique dès le départ de tenir cette guerre cachée, notamment car le Cameroun était un territoire sous tutelle des Nations Unies, un mandat que la France a donc dévoyé. En 2009 encore, François Fillon, Premier ministre a qualifié les crimes dont est accusée la France de pures inventions. Lors de la présentation du rapport mardi, le président camerounais Paul Biya a donc salué un travail de catharsis nécessaire.
Il s'agit en définitive d'un travail de thérapie collective qui amène les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations. Il nous appartient dès à présent d'enseigner et surtout de vulgariser ces travaux méritoires et d'engager nos futures relations sur des bases saines, dans un esprit dépouillé de malentendus et de suspicions.
Alors, une histoire méconnue en France, on le disait Florence. Est-ce qu'au Cameroun, cette histoire est mieux connue?
Eh bien, la société camerounaise, elle, est marquée à vif par cette guerre. Mais au niveau de l'État camerounais aussi, elle a été passée sous silence après l'indépendance au profit d'un récit autour d'une indépendance qui aurait été octroyée par les Français. Donc, la question qui se pose maintenant, que vont faire la France et le Cameroun? Paris va-t-il reconnaître officiellement ses responsabilités? Va-t-on ériger des lieux de mémoire ou réviser les manuels scolaires? C'est en tout cas ce que recommandent les auteurs de ce rapport.
Merci Florence Maurice pour le dossier du 8h sur RFI.
Et j'ajoute que Karine Ramondi est notre invitée Afrique ce jeudi. Son entretien avec Christophe Boisbouvier est à retrouver sur notre site RFI.fr. Cette députée française, 7 sénateurs aussi, ça fait 14 parlementaires en tout réunis au sein d'une commission mixte paritaire chargée d'un très lourd dossier, le budget 2025.
Et cette commission doit se réunir à partir de ce matin pour tenter de trouver une version commune du texte qui doit être examinée par l'Assemblée nationale dès lundi. Nouvelle semaine périlleuse pour le gouvernement, toujours menacé de censure, reste à savoir ce que fera la gauche, faire tomber ou non l'exécutif. Et les divisions sont visiblement toujours d'actualité. C'était flagrant hier soir au meeting du Nouveau Front Populaire près de Paris. Aurélien de Vernoy était.
On réunit ce soir l'amical de la censure. Peut-être qu'on va recruter des nouveaux adhérents ce soir.
L'eurodéputée insoumise Manon Aubry taquine les élus socialistes présents dans la salle. Le PS peine en effet à décider de sa position sur le budget. Pour la numéro 2 du parti, Johanna Roland, les récentes déclarations de François Bayrou sur l'immigration ne laissent plus la place au doute. Censure.
Moi, je refuse que la République choisisse parmi ses enfants. J'appelle mes camarades à prendre cette position.
Et la maire de Nantes met la pression sur ses collègues parlementaires.
Cela vient interroger les fondements même sur lesquels le Front républicain s'est constitué. Oui, les heures qui sont devant nous sont des heures assez cruciales.
Un député socialiste présent veut lui laisser une chance au gouvernement si par exemple celui-ci renonce à couper dans le budget de l'aide médicale d'État destinée aux sans-papiers. Mais pour Manon Aubry, le compte n'y sera toujours pas.
Ce nouveau budget, c'est la continuité du budget Barnier avec des milliards d'euros en plus de coupes dans les dépenses publiques. À l'heure actuelle, le Parti socialiste, c'est sûr qu'il le voit.
Au PS, on veut surtout affirmer son indépendance face aux insoumis avec toutefois une crainte formulée par un élu local, celle d'un pacte déjà trouvé entre le gouvernement et le Rassemblement National pour éviter la censure, avec le risque que le NFP ne se soit une fois de plus divisé pour rien.
Aurélien de Vernoy.
En foot, c'est un 4 sur 4 pour les clubs français en Ligue des Champions.
À 4 équipes engagées dans les phases de groupe et elles sont toutes qualifiées pour la suite de la compétition. Lille se qualifie même directement pour les 8e de finale. Le Paris Saint-Germain devra passer par les barrages. Ce sera contre l'un des deux autres clubs français toujours en lice, soit Monaco, soit Brest. Le petit poussé français de cette compétition qui s'est incliné 3-0 face au Real Madrid. Le match se jouait à Guingamp et les Brestois n'ont rien pu faire face aux géants madrilènes et ses stars. Ça n'en demeurait pas moins le match du siècle pour le public breton, ambiance survoltée, Thomas de Saint-Léger.
De la fierté, de la déception, de la frustration. Voilà, on apprend, on continue.
En trois mots, Mathias Pereira l'âge a tout résumé. Des sentiments contrastés à chaud et pourtant les yeux pétillent encore. C'est ça, d'approcher les étoiles, de vivre aux premières loges une soirée dont on pourra dire j'en étais. Le milieu de terrain, Hugo Magnetti.
C'était une fête formidable pour nous. Dès l'arrivée du car, on a senti un engouement vraiment très particulier. Et sur le terrain, on a voulu rendre ce que les supporters nous ont donné. Je pense qu'on méritait un petit peu mieux. Après, on a été très fiers de jouer contre ce grand club.
Fierté aussi d'offrir à Brest et à toute la Bretagne son match du siècle, le meilleur moment d'une vie de supporter.
Ah bah jouer contre le Real Madrid, on verra peut-être ça qu'une fois dans notre vie. Donc on en a profité au maximum. Ouais. La réalité va vite nous rattraper. Demain matin, il y a boulot. Donc
Mais l'aventure n'est pas terminée et avec cette équipe, il n'est pas interdit de rêver d'un foot un peu plus fou.
De toute façon, on donne rendez-vous au Real à Munich, en finale.
Thomas de Saint-Léger, Guingamp, RFI.
des Brestois qui vont vite en besogne. Mais la prochaine étape pour Brest, c'est ce barrage à venir, soit face au PSG, soit face au Benfica Lisbonne. Le tirage au sort, Andréane, ce sera demain.
Merci Gaëtan Plenet. On reste ensemble sur RFI. Tout de suite, la revue de presse internationale. Frédéric Couteau à la une, le bras de fer entre Trump et l'administration fédérale.
Il n'aura fallu qu'une semaine au président Donald Trump pour déclencher une crise constitutionnelle potentielle, soupire le Washington Post. Le président américain veut mettre au pas l'administration fédérale, la modeler à son image, contrôler ses dépenses, licencier les fonctionnaires récalcitrants. Pourtant, souligne le Post, la Constitution, qui ne semble pas avoir beaucoup d'importance de nos jours, la Constitution est on ne peut plus claire. Le Congrès possède le pouvoir du financement, il est le seul à contrôler la quantité d'argent des contribuables à dépenser et sur quoi. Et le travail du président consiste à veiller à ce que ces lois soient fidèlement exécutées. Rien de plus, et pourtant, pointe encore le Washington Post, le bureau de la gestion et du budget de Trump, dirigé par des zélotes qui ont une conception démesurée de l'autorité exécutive, ce bureau semble ignorer le rôle du Congrès.
Et si tout cela semble délirant, c'est parce que c'est le cas, s'exclame le New York Times.
Oui, Donald Trump mène une guerre contre le système gouvernemental américain. Lundi après-midi, son bureau de la gestion et du budget a gelé la quasi-totalité des subventions, prêts et autres formes d'aide fédérale, affectant jusqu'à 3 000 milliards de dollars de fonds, notamment pour l'éducation, les secours en cas de catastrophe et les prêts aux petites entreprises, ainsi que des centaines de milliards de dollars de subventions au gouvernement des États, des collectivités locales et des tribus. Le lendemain mardi, 23 procureurs généraux ont poursuivi l'administration Trump dans le but de bloquer ce gel et un juge fédéral a émis un sursis administratif pour préserver le statu quo jusqu'à la semaine prochaine. Pour l'instant donc, le gel est en fait gelé, s'exclame le New York Times, mais quelle que soit la manière dont cela va se terminer, il faut souligner que Trump a fait plus que déclencher une crise fiscale et politique, il nous a précipité dans une autre crise constitutionnelle.
Commentaire de Libération à Paris, ce sont les grandes purges d'un Donald Trump vainqueur et tyrannique.
Revenu à la Maison Blanche il y a 10 jours à peine, Donald Trump met à exécution ses menaces de remodeler l'administration en conformité avec son idéologie et son programme, de curer le marigot, comme il promet de le faire depuis 10 ans, et de décaper tout ce qu'il voit comme woke ou déloyal, de neutraliser les contre-pouvoirs dans l'administration et de mettre au pas les millions de fonctionnaires du pays.
Autre point de vue pour le Wall Street Journal à New York, plutôt complaisant envers Trump.
Oui, le Wall Street Journal qui affirme que le président américain a tout à fait le droit de suspendre le versement de fonds discrétionnaires pour s'assurer qu'ils sont bien conformes à la loi et à ses priorités, mais la Maison-Blanche ne s'est pas aidée, reconnaît le quotidien économique, en manquant de clarté sur certains détails, ce qui a permis aux démocrates de prédire l'apocalypse. Gouverner par le chaos ne fonctionne pas, pointe encore le Wall Street Journal. Pour réussir, les actions de l'équipe Trump doivent être bien définies et soigneusement expliquées, faute de quoi elles seront mises en pièces par les tribunaux et les agents du statu quo.
À la une également, Frédéric, la RDC et la guerre dans l'Est du pays.
Un conflit souvent ignoré par la presse internationale et qui revient sur le devant de la scène. Le Guardian à Londres lui consacre son éditorial. Pour le quotidien britannique, l'Occident a été trop complaisant à l'égard du président rwandais, Paul Kagame. Cette crise montre à quel point il est absurde de considérer Kigali comme un garant de la stabilité régionale, affirme le Guardian. L'Allemagne a envoyé un signal bienvenu en suspendant les négociations d'aide avec les responsables rwandais. D'autres pays européens et les États-Unis devraient suivre cet exemple. Des sanctions et des interdictions de voyager pourraient également être adoptées pour faire pression pour que s'achèvent les combats et créer des couloirs humanitaires. La communauté internationale interpelle enfin le Rwanda sur son rôle dans cette catastrophe, mais conclut le Guardian, avec autant de vies en jeu, il faut plus que des mots.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. Et demain, ça fera très exactement 5 ans que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne. C'était le 31 janvier 2020, avec une période de transition. Mais quand même, ce départ a suivi un vote en 2016. Et à l'époque, les partisans du divorce étaient nombreux dans le milieu agricole. 5 ans plus tard, quel bilan tirer pour le secteur ? Eh bien, c'est mitigé. Certains s'en sortent mieux que prévu. Mais pour beaucoup, la situation s'est dégradée. Notre correspondante Marie Billon s'est rendue sur un marché aux bestiaux.
Cela fait 5 ans que la cloche de Big Ben du Parlement de Westminster a retenti. À 23h, elle annonçait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Cette cloche-là, c'est celle qui annonce par contre le début des enchères aux moutons du marché de Melton Mowbray. Richard Morris était là ce matin, même s'il n'avait pas de moutons à vendre cette fois-ci. Cet éleveur aime l'ambiance des marchés.
We were told with Brexit, On nous avait dit qu'avec le Brexit, les prix allaient chuter et que l'agneau britannique n'aurait plus de demande à cause des droits de douane. Mais c'est tout le contraire. La demande est là et aucune taxe n'a été imposée sur l'agneau britannique. Pour l'instant en tout cas. La demande la plus forte vient du Moyen-Orient, d'Arabie Saoudite, d'Israël et de Turquie, hors Union Européenne. Mais également, plus près de nous, d'Espagne et d'Italie, et de France. Et puisque ces clients avaient une relation commerciale avec nous avant le Brexit, ils continueront cette relation après le Brexit.
L'avis de Richard n'est pas partagé par tous, même pas parmi ses amis. Andrew Wheeler cultive des céréales à quelques kilomètres de là. La saison est basse pour lui, toute sa récolte est dans son entrepôt. Il a le temps de ruminer. Lui aussi, il avait voté pour la sortie de l'Union européenne en 2016.
J'ai voté en faveur du Brexit, mais c'est probablement mon cœur qui l'a emporté sur ma tête. L'une des raisons pour lesquelles je voterai différemment aujourd'hui, c'est que je vois que notre gouvernement ne s'intéresse pas à l'agriculture. Lorsque nous étions membres de l'Union européenne, il ne fait aucun doute que la pression exercée par les agriculteurs, surtout les Français, avait de l'impact à Bruxelles. L'UE avait peur, elle a toujours peur, des agriculteurs. Et ce n'est pas le cas du gouvernement britannique.
Le principal syndicat de fermiers britanniques, le NFU, tient une permanence au marché de Melton Mowbray. Ici et ailleurs, le représentant local, James Haddon, reçoit beaucoup de plaintes, notamment de producteurs de fruits et légumes. Ces derniers ne peuvent plus compter sur la main-d'œuvre qui venait d'Europe, surtout d'Europe de l'Est, au moment des récoltes.
Vous travaillez toute l'année pour avoir une récolte et vous n'êtes pas en mesure de la faire. C'est pourquoi la NFU souhaiterait un plan stratégique quinquennal pour les travailleurs saisonniers, pour qu'ils puissent venir en nombre raisonnable, donc sans plafond arbitraire, afin que tous les aliments cultivés puissent être récoltés avec succès.
Le gouvernement travailliste arrivé au pouvoir en juillet dernier veut revoir et améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Mais il reste catégorique. Un retour à la liberté de mouvement est hors de question. Marie Billon, Londres, RFI.
Londres où il est actuellement 7h22. En Italie, la première ministre Giorgia Meloni est visée par une enquête du parquet de Rome dans le cadre de l'expulsion d'Osama al-Masri Najim, le chef de la police judiciaire de Tripoli recherché par la Cour pénale internationale. La CPI qui accuse Osama al-Masri Najim de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il a été interpellé et incarcéré à Turin le 19 janvier dernier, c'est-à-dire au lendemain de l'émission du mandat d'arrêt de la CPI et après 12 jours passés dans différents pays européens. Mais il a été remis en liberté le 21 janvier par la Cour d'appel de Rome, faute d'avoir reçu l'aval du garde des Sceaux pour la prolongation de sa détention et a donc été rapatrié en Libye sur ordre du ministre de l'Intérieur le même jour par un avion des services secrets. Bonjour Anne Lenir.
Bonjour Andréane.
Correspondante de RFI à Rome. Alors Anne, on va essayer d'être clair. Comment s'explique cette enquête ouverte par le parquet de Rome ?
Alors, pour reprendre l'expression utilisée par le procureur de Rome, Francesco Lovoi, c'est un acte obligatoire à la suite d'un dépôt de plainte. En l'occurrence, il s'agit d'une plainte pour présumée complicité en faveur de la remise en liberté d'Osama al-Masri Najim et pour présumée détournement de fonds à travers l'utilisation d'un avion d'État pour le rapatrier à Tripoli. Elle a été déposée en tant que citoyen par un avocat, Luigi Ligotti, qui a pointé du doigt la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, le ministre de la Justice, Carlo Nordio, et celui de l'Intérieur, Matteo Piantedosi, ainsi que le secrétaire d'État délégué au service secret, Alfredo Mantovano.
Et alors maintenant, Anne, que va-t-il se passer ?
L'ouverture de l'enquête permettant aux personnes visées de désigner un avocat, c'est chose faite depuis hier. Giorgia Meloni et les trois membres de son gouvernement ont choisi la même avocate, la sénatrice Giulia Bongiorno, un ténor du barreau italien. Par ailleurs, l'enquête est déjà entre les mains du tribunal des ministres qui a 90 jours de délai pour décider de classer le dossier ou de le renvoyer au procureur Francesco Lovoi, qui pourra le transmettre aux commissions parlementaires compétente pour demander l'autorisation d'engager un procès, ce qui, dans ce cas, nécessiterait un vote des députés et sénateurs.
Et donc, en cas de procès, que risqueraient les accusés ?
Eh bien, dans le contexte d'une affaire comme celle d'Osama al-Masri Najim, pour le délit de complicité, la peine maximum est de 4 ans de prison. Et pour le délit de détournement de fonds publics, elle va de 3 ans à 10 ans et 6 mois. Mais vous savez, on est encore loin d'un éventuel procès.
Alors, après le forfait déclaré des ministres de l'Intérieur et de la Justice qui devaient s'exprimer hier devant le Parlement, ces ministres ou la présidente du Conseil interviendront-ils tout de même pour répondre aux questions des députés et sénateurs ?
Eh bien, pour le moment, ce n'est pas prévu. D'ailleurs, les travaux au Sénat et à la Chambre des députés seront suspendus jusqu'au 3 février à l'initiative de l'opposition révoltée et qui voudrait surtout les éclaircissements politique de la chef de gouvernement au Parlement. Jusqu'à présent, Giorgia Meloni s'est contentée d'affirmer qu'Osama al-Masri Najim a été expulsé d'Italie car, je cite, considéré comme un sujet dangereux pour la sécurité nationale. Elle n'a jamais évoqué sa dangerosité au niveau international, comme l'a pourtant bien souligné la CPI.
Anne Lenir en direct avec nous de Rome. Merci beaucoup à vous, RFI. 10h25 à Mamoudzou. Ils seront à Mayotte aujourd'hui et demain. Manuel Valls, ministre de l'Outre-mer, Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, en visite dans le 101e département français dans l'océan Indien, quelques jours après le retour des écoliers sur les bancs de l'école, un mois et demi après le passage du cyclone Chido. Un drame qui a fait des morts, des blessés et qui a largement dévasté le territoire de Mayotte. Mais outre ce bilan, quelles conséquences a eu Chido sur la biodiversité marine? C'est notre question d'environnement ce matin. Alors, pour constater les dégâts, justement, dans l'un des plus grands et des plus rares lagons fermés du monde, les agents du parc naturel marin de Mayotte effectuent les premières plongées sous-marines. Igor Strauss, avant de parler justement des destructions, précisons que le récif corallien a joué son rôle de protection des terres.
Effectivement, Mayotte est entourée d'un double récif corallien avec un récif barrière qui ferme quasiment le lagon et un deuxième récif dit frangeant, c'est-à-dire relié à la terre, dans des eaux peu profondes. D'après Météo France, lors du passage du cyclone, les vagues mesuraient 9 mètres avant de franchir le récif barrière. Elles ne faisaient plus que 4 à 5 mètres une fois ce dernier franchi. Puis le récif frangeant a lui aussi atténué l'ampleur des vagues. Et enfin, bien la mangrove a joué son rôle de protection de la côte. Selon les spécialistes, les dégâts sur terre auraient été bien plus dévastateurs sans ces deux écosystèmes.
Alors les récifs ont donc protégé la côte. En revanche, eux ont subi de plein fouet l'impact du cyclone Chido.
Ouais, principalement sur la partie est, par là où le cyclone est arrivé. Mais il y a eu un facteur aggravant. En 2024, Mayotte a subi les effets du phénomène climatique El Niño avec le réchauffement de l'océan et son acidification. Eh bien, le récif corallien a subi un épisode de blanchissement qui l'a fortement fragilisé. Johan Doucet est le chef de service ingénierie du parc naturel marin de Mayotte.
En mettant une première fois la tête sous l'eau, on a des zones qui sont particulièrement bien préservées et d'autres où il n'y a plus rien, où avant justement on avait une richesse, une biodiversité assez importante. Et en l'occurrence, sur le phénomène El Niño de l'année dernière, on avait pu mesurer, juste avant le cyclone, l'impact du blanchissement corallien dû à cet effet-là. Et on avait estimé une mortalité moyenne déjà à 35% des coraux qui étaient présents et aussi une fragilisation en fait d'un bon nombre d'entre eux. Et donc, il est possible que derrière, avec le passage de Chido, des récifs qui étaient déjà fragilisés n'aient pas pu résister à l'impact de Chido.
Alors, certains lieux sous-marins iconiques de Mayotte ont été durement éprouvés, comme le tombant des aviateurs, le nom est joli, ou l'extérieur de la passe S. Côté faune, eh bien, les espèces mobiles, comme les poissons, les mammifères et les 5 espèces de tortues que compte le lagon, ont pu se mettre à l'abri. En revanche, précise Johan Doucet, elles ont perdu leur habitat. Cet écrin de biodiversité qu'est Mayotte a donc payé un lourd tribut lors du passage de Chido.
Et il faudra donc du temps, des décennies, pour reconstituer ce milieu marin.
Oui, c'est essentiel, selon les spécialistes. Et pour plusieurs raisons, il faut reconstituer cette barrière protectrice, protéger la biodiversité et ainsi les ressources alimentaires et économiques. Pour cela, eh bien, il faudra la collaboration de l'ensemble de la population pour protéger le lagon des menaces qui pèsent sur lui en temps normal, comme l'envasement provoqué par l'agriculture et les constructions, le braconnage et la gestion des déchets.
Merci, Igor Strauss.
À l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, le ministère de la Culture organise les 8 et 9 février à Paris un week-end dédié à l'IA. À la BNF François Mitterrand et à la Conciergerie, venez découvrir gratuitement une grande exposition, un programme de table ronde et des ateliers. Réservez et retrouvez toutes les informations sur culture.gouv.fr. Un partenariat France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème d'aujourd'hui.
Des projets de barrages aux extensions de sites industriels, partout, les mobilisations collectives et environnementales se multiplient pour l'abandon de ces projets. Mais pour quels résultats concrets ?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur